VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour le monde aujourd'hui au sommaire de cette édition du jeudi 19 octobre 2023. Le président Joe Biden prononce ce soir à 20h un discours sur le conflit entre Israël et le Hamas, mais aussi sur l'Ukraine envahie par la Russie. L'aide humanitaire devrait commencer à arriver demain vendredi à Gaza après 13 jours d'une guerre meurtrière.
Je pense que le problème n'est pas dans le conflit entre les Israéliens et les Palestiniens. Le premier problème est l'utilisation de ce conflit par les puissances régionales et les puissances globales.
Sarah Fenberg, une habitante de Ranana, dans le centre d'Israël, à suivre dans la partie magazine. Retrait accéléré de l'ONU du Mali, Bamako dénonce une trahison et accuse la France. En Centrafrique, un ex-chef de milice, Anti Balaka, a été libéré après l'abandon des charges par la Cour pénale internationale. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Eco pour l'instant le journal. Le président américain Joe Biden s'adresse à la nation ce soir. Moins de 24 heures après son retour d'Israël, il va tenter de rallier les Américains à la défense de l'État hébreu et de l'Ukraine. Alexandrine Ollognon.
Le discours du président américain intervient alors qu'il s'apprête à demander un programme de 100 milliards de dollars pour l'Ukraine et Israël au Congrès américain, actuellement paralysé par des divisions entre les républicains. La secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que le discours va porter sur la réponse américaine aux attaques du Hamas contre Israël et la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine. Ce sera le deuxième discours de Joe Biden derrière l'historique Resolute Desk que les présidents réservent au moment d'importance nationale cruciale. Lors de sa visite en Israël, le président américain s'est engagé à aider Israël et les Palestiniens, mais l'explosion meurtrière d'un hôpital a fait dérailler les négociations visant à éviter que la guerre ne s'étende. Il a aussi insisté sur la nécessité d'apporter une aide humanitaire à Gaza.
Le Congrès américain, toujours paralysé depuis 16 jours par des querelles républicaines, cherche une issue à l'impasse. L'élu républicain Jim Jordan pourrait renoncer ce jeudi à la présidence de la Chambre des représentants et selon plusieurs médias américains, le quinquagénaire, membre de la frange la plus conservatrice du Parti républicain, va plutôt soutenir le renforcement des pouvoirs de Patrick McHenry, le speaker intérimaire. Les autorités russes ont arrêté une journaliste de Radio Liberté, a annoncé ce jeudi la radio financée par les États-Unis, l'accusant de ne pas s'être enregistré comme agent étranger pour rassembler des informations sur les activités militaires de Moscou. Alsou Kourmacheva, qui dispose de passeports russes et américains, est la deuxième journaliste américaine à être arrêtée en Russie cette année après Ivan Gershkovich, un correspondant du Wall Street Journal, détenu depuis mars dernier sur des accusations d'espionnage qu'il rejette. Elle pourrait encourir jusqu'à 5 ans de prison, a indiqué Radio Liberté, appelant à la libération de la journaliste. Les Palestiniens bloqués à Gaza attendent désespérément les camions d'aide humanitaire promis par le président américain Joe Biden et l'Égypte au 13e jour d'une guerre meurtrière qui se poursuit en dépit d'une intense activité diplomatique. Jacques Aristide.
Israël a continué de pilonner la bande de Gaza, tandis que les convois d'aide humanitaire sont bloqués depuis des jours à la frontière avec l'Égypte, au point de passage de Rafah, le seul qui ne soit pas contrôlé par l'État hébreu. Sur le plan diplomatique, plusieurs pays s'activent pour éviter un embrasement régional. Le Premier ministre britannique est arrivé à Tel Aviv aujourd'hui, première étape d'une tournée régionale. Rishi Sunak a exprimé son soutien à Israël, mais a appelé à accélérer l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Il a qualifié d'acte de terrorisme innommable et horrible l'attaque du 7 octobre perpétrée par le Hamas sur le territoire israélien. Le président égyptien et le roi Abdallah II de Jordanie ont eux réclamé l'arrêt immédiat du conflit à Gaza et ont accusé Israël d'infliger à ce territoire une punition collective visant à affamer les Palestiniens et à les forcer au déplacement d'après Amman. D'importants rassemblements anti-Israël ont eu lieu dans le monde arabe et musulman, notamment en Jordanie, en Tunisie, au Liban et en Syrie.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a plaidé aujourd'hui au Caire pour un accès humanitaire rapide et sans obstacle de l'aide humanitaire à Gaza, appelant à un cessez-le-feu immédiat au 13e jour de la guerre entre Israël et le Hamas. Le droit humanitaire international doit être respecté, a déclaré M. Guterres lors d'une conférence de presse avec le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry. Le terminal de Rafah, l'unique ouverture de la bande de Gaza sur le monde non contrôlé par Israël, ouvrira demain vendredi pour laisser passer l'aide humanitaire vers le territoire palestinien, a annoncé ce jeudi un média proche du renseignement égyptien. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont appelé aujourd'hui leurs ressortissants à quitter le Liban. L'ambassade américaine à Beyrouth a exhorté les citoyens américains à planifier leur départ le plus tôt possible tant que des vols commerciaux sont encore disponibles. Le Hezbollah et des factions palestiniennes basées au Liban ont de nouveau échangé des tirs ce jeudi avec l'armée israélienne. Les États-Unis ont aussi lancé un appel à la vigilance à tous les Américains dans le monde en raison des tensions actuelles liées à la guerre à Gaza et les risques que des citoyens américains soient pris pour cible. Le département d'État appelle en particulier les ressortissants américains à rester vigilants dans les lieux touristiques de par le monde et à s'enregistrer auprès des autorités consulaires.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité en Afrique, la Cour pénale internationale a annoncé aujourd'hui la libération d'un ex-chef de milice centrafricaine, Antti Balaka, en raison de l'abandon des charges par l'accusation justifiée par l'indisponibilité de témoins. Les précisions avec Delidico.
Les juges de la CPI ont mis fin à la procédure contre Maxime Mokom suite au retrait des charges contre lui et ordonné sa mise en liberté immédiate. Le procureur de la CPI, Karim Khan, a déclaré avoir informé les juges du retrait des charges après avoir examiné l'ensemble des éléments de preuve. Selon la notification du procureur, il est devenu clair que plusieurs témoins très importants ne sont pas disponibles pour témoigner et que certains d'entre eux détenaient des informations cruciales sur les accusations portées contre M. Mokom. L'ancien chef de milice, âgé de 44 ans, faisait face à 20 chefs d'accusation pour des faits commis entre 2013 et 2014. M. Mokom était un chef des milices anti-Balaka, formé majoritairement de chrétiens et animistes. Jusqu'à là, Edouard Ngaïsona, ancien porte-parole des anti-Balaka, et Alfred Yakatom, alias Rambo, sont toujours détenus à La Haye en attendant leur procès.
Au Mali, la junte au pouvoir dénonce une énième trahison à propos du retrait accéléré de la mission de l'ONU en accusant la France de tenter de favoriser les groupes djihadistes. Le point avec Nani Talani.
Dans un communiqué lu hier soir par la télévision d'État, le porte-parole du gouvernement malien, le colonel Abdoulaye Maïga, accuse la France d'œuvrer pour que la MINUSMA accélère le mouvement en lieu et place d'un retrait ordonné. Les objectifs de cette fuite orchestrée constituent une énième trahison dont sont victimes les forces armées du Mali en abandonnant délibérément, selon le communiqué, des quantités importantes d'armes et de munitions. Un responsable de la MINUSMA, Eladj Ibrahima Dieng, a reconnu dans une vidéo diffusée par la télévision d'État malienne que l'évolution de la situation sécuritaire sur le terrain nécessite une procédure accélérée qui sera menée en concertation avec toutes les parties. Or, un changement de calendrier bouscule les plans de l'armée malienne autour de la libération des camps de la MINUSMA que cette dernière ne compte pas laisser aux groupes armés. La MINUSMA a prévenu qu'elle pourrait avoir à détruire ou mettre hors service des équipements sensibles qu'elle n'aurait pas pu évacuer. Les casques bleus doivent quitter le pays d'ici au 31 décembre.
Les premiers soldats français qui ont quitté leur base au Niger par la route en direction du Tchad sont arrivés sans encombre à N'Djamena, prélude d'un processus complexe qui doit s'achever d'ici fin décembre, a annoncé Paris. Parti de Niamey, le convoi est sorti du Niger en sécurité et en coordination avec les forces nigériennes, a indiqué le colonel Pierre Goudier, porte-parole de l'état-major français. L'armée française doit évacuer hommes et matériel en majeure partie par voie terrestre vers le Tchad, puis le Cameroun avant leur rapatriement en France. N'Djamena abrite le commandement des opérations françaises au Sahel avec environ 1 000 000 de militaires français. Et puis l'Union européenne a annoncé ce jeudi avoir mis en place un pont aérien humanitaire pour acheminer des médicaments essentiels et des fournitures médicales au Niger, frappé par des sanctions économiques depuis le coup d'État du 26 juillet. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Claire Morin-Jigou.
En République démocratique du Congo, les Quinois n'en reviennent pas de la vitesse à laquelle une entreprise turque a construit un imposant complexe financier au cœur de la capitale. 9 bâtiments imposants vont accueillir les ministères des Finances, du Budget et abriter un centre de congrès, des bureaux et un grand hôtel. Le maître d'œuvre est l'entreprise Milvest, filiale de la holding turque Miller. Ce chantier emploie quelques 1800 Congolais et 1200 Turcs. Au Cameroun, l'inflation a le plus impacté la croissance de 75% des petites et moyennes entreprises en 2022, selon une enquête du groupement interpatronal du Cameroun. Le patronat souligne que l'inflation de 6,3% n'a jamais été aussi importante en 25 ans. L'accès au financement et l'énergie sont parmi les autres obstacles à la croissance pour les PME. Le groupe japonais Sony a annoncé un partenariat avec la Société financière internationale SFI pour la création d'un fonds de 10 millions de dollars pour appuyer les start-up africaines dans les industries créatives. Pour être éligibles, les start-up doivent être dans le divertissement, qu'il s'agisse des jeux, du cinéma ou de la musique. L'industrie du divertissement est en pleine croissance en Afrique. Nollywood au Nigeria, Netflix et Amazon sont en compétition âpre dans la création de contenu.
Place maintenant au sport avec Eric Mandrakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Football, Tour d'Europe de stade, un derby Chelsea-Arsenal et un choc AC Milan-Juventus.
Tout à fait. En Angleterre, Arsenal se déplace sur la pelouse du voisin Chelsea pour un derby londonien. Manchester City, troisième après deux revers d'affilée, n'aura pas la partie facile à domicile samedi contre Brighton, sixième. Liverpool, quatrième à 3 points du leader, dispute le derby contre Everton le même jour. Un total de 240 buts a été atteint après les 80 premiers matchs de la saison, soit exactement 3 par rencontre. Troisième total, le plus élevé de l'histoire après 8 journées de Premier League, selon le statisticien Opta. En Italie, le choc dimanche entre l'AS Milan et la Juventus Turin est une affaire des paris et sommets. La Juventus troisième doit réinventer son milieu de terrain après les suspensions de Paul Pogba pour dopage et de Fagioli à cause de paris sportifs, en attendant le marché des transferts en janvier. En attendant, le champion en titre Naples donnera le coup d'envoi de la 9e journée en se déplaçant samedi à Vérone sans son buteur nigérien Victor Osimhen qui s'est blessé avec sa sélection. L'Inter, désormais deuxième à 2 points de son rival milanais, reprend sa course au titre samedi sur le terrain du Torino. En Liga espagnole, Sergio Ramos, désormais à Séville, retrouve son ancienne équipe du Real Madrid. Le défenseur central de 37 ans retrouvera certains de ses anciens coéquipiers avec lesquels il a tout gagné à Madrid. La dernière fois que Ramos avait affronté le Real, c'était en 2005, lors de ses débuts à Séville. L'Atlético Madrid, quatrième, se déplace à Vigo, 18e et relégable, samedi pour tenter de glaner un 6e succès consécutif. Le FC Barcelone, troisième, toujours privé de plusieurs joueurs majeurs blessés, accueille l'Atlético Bilbao, 5e dimanche, pour rester au contact du Real et de son voisin de Gérone. Allemagne, le Bayern Munich, troisième, se déplace samedi à Mainz, qui cale en avant-dernière en position. Avec 2 points, cette journée, Dortmund, quatrième à égalité de points avec le club bavarois, reste sur 5 victoires en championnat et peut grimper sur le podium en ouverture de la journée vendredi avec la réception du Werder Brême 14e. Enfin, en France, toujours pas souverain en Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit Strasbourg pour tenir le rythme de Monaco et Nice qui le devance au classement avant cette 9e journée de championnat marquée par un Nice-Marseille brûlant et un Lyon-Clermont débafouillé.
Page des sports VO Afrique signée Eric Mandirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour le dossier du jour. Depuis le 7 octobre, le Hamas a tiré plus de 6000 roquettes sur Israël, selon le décompte de l'armée israélienne. En représailles, environ 3500 Palestiniens ont été tués dans les bombardements et plus de 1400 Israéliens ont été tués, brûlés vifs ou sont morts de mutilations au premier jour de l'attaque. Idriss Fall a recueilli la réaction de Mme Sarah Feinberg, une habitante de Ranana, dans le centre d'Israël.
J'ai passé mes journées à passer d'enterrement en enterrement, de cimetière en cimetière, à enterrer des femmes et des hommes qui ont été massacrés par le Hamas dans les villes du sud d'Israël. Nous avons également enterré des petits jeunes, des soldats de 19 ans, qui ont été tués dans les premiers jours de la guerre. Je dois vous dire qu'en Israël, il y a tellement d'enterrements qu'on doit se porter volontaire. Il n'y a pas assez de personnes pour aller enterrer nos morts par rapport à la taille du pays.
Comment est-ce que vous avez apprécié le passage de Joe Biden?
Joe Biden a été reçu au Moyen-Orient. Il n'a pas été reçu en Jordanie sur la fausse accusation considérant à dire qu'Israël avait bombardé un hôpital à Gaza. Les renseignements américains ont obtenu toutes les preuves et ont officiellement déclaré que c'est le djihad islamique qui a bombardé cet hôpital. Et donc la venue de Joe Biden était très importante pour dissuader l'Iran et le Hezbollah de bombarder massivement Israël, de profiter de cette attaque. Et également, cette visite était là pour rappeler les mensonges et la guerre de l'information que mène le Hamas, en faisant croire au monde entier que la destruction de cet hôpital vient d'une frappe israélienne, alors qu'il a été prouvé. Et j'invite vos auditeurs à regarder les communiqués de presse des renseignements américains, qu'il s'agit du djihad islamique qui a bombardé Israël, mais qui manque de précision, et la bombe a malheureusement touché un hôpital à Gaza. Donc de ces deux points de vue de la dissuasion et de la guerre de l'information, la lutte contre les fake news qui peut déclencher une poudrière dans la région, cette visite était d'une haute importance pour Israël.
Est-ce que vous pensez que ce cycle va un jour pouvoir s'arrêter et que Israéliens et Palestiniens puissent vivre côte à côte sans toutes ces violences?
Vous savez, monsieur, je pense que le problème n'est pas dans le conflit entre les Israéliens et les Palestiniens. Le premier problème est l'utilisation de ce conflit par les puissances régionales et les puissances globales. Il est très clair que l'Iran et le Hezbollah ont tout fait du point de vue du financement, du point de vue de l'entraînement, pour qu'une attaque d'une telle ampleur soit possible. Elle sert leurs intérêts géostratégiques. Elle sert également les intérêts stratégiques de la Russie.
Madame Sarah Feinberg, une habitante de Ranana, dans le centre d'Israël. L'ancienne première ministre sénégalaise Aminata Touré est candidate à la présidentielle de 2024 au Sénégal. Après les législatives de 2022, son retrait de la coalition au pouvoir lui a valu d'être déchu de son mandat de parlementaire. Le Sénégal a eu deux premières ministres et les femmes occupent 44% des sièges au Parlement. Dans un entretien avec Nathalie Barge, Aminata Touré estime qu'il faut appliquer la parité au poste nominatif.
Il nous reste maintenant à parachever cette parité au niveau du gouvernement, au niveau des conseils d'administration. C'est vrai que nous avons la parité 50-50 pour tous les postes électifs, mais c'est loin d'être le cas pour les postes nominatifs. Le gouvernement est complètement en faveur des hommes du point de vue numérique et c'est la prochaine conquête qu'il nous faut avoir, c'est un gouvernement paritaire comme l'est l'Assemblée nationale, comme le sont nos conseils municipaux. Je pense que le moment est arrivé, il faut que cette parité soit le principe. C'est ça la démocratie aussi, c'est le droit à la représentation équitable et égalitaire.
Quelles sont selon vous les priorités de votre pays au plan économique et social?
Je considère qu'au XXIe siècle, c'est un scandale qu'il y ait encore une masse importante de Sénégalais qui ont du mal à manger à leur faim, qui ont du mal à se soigner, à vivre dans des logements décents, à accéder à l'éducation. Donc la lutte pour l'éradication de la pauvreté, ce sera ma priorité. La question du pouvoir d'achat, les prix se sont envolés et sont hors contrôle. Il va falloir qu'on redéfinisse notre système de subvention et qu'on l'oriente vers les produits alimentaires. Je crois que c'est une première chose. Pour ce qui concerne la santé, je crois qu'il va falloir être très innovatif en mettant en œuvre les stratégies de santé mobile, trouver les populations là où elles sont, qu'on ait un programme d'équipement minimal des centres de santé. Et il faut savoir également qu'on sera un pays producteur de gaz et de pétrole, plus de gaz d'ailleurs. Et les revenus, pour l'essentiel, seront orientés vers les programmes d'éradication de la pauvreté. Les femmes et les jeunes seront au cœur de mon programme. J'ai l'ambition de créer une banque des femmes. Elles sont très actives au niveau de l'économie informelle, mais elles n'ont pas accès au financement. La banque également des artisans est un projet, puisque notre économie est à 90% informelle. Et malheureusement, tous ces nombreux artisans talentueux n'ont pas accès au crédit. C'est un tout petit aperçu de ce que je propose aux Sénégalais.
Le Sénégal a eu deux femmes premiers ministres. Il s'agit maintenant d'accéder à la présidence. Quelles sont vos estimations sur les intentions de vote en faveur des femmes?
Moi, je suis tout à fait convaincu que les Sénégalais sont prêts à élire une femme. Je n'en ai aucun doute. Je pense que les Sénégalais ne sont pas moins sophistiqués que les Libériens qui ont placé une femme à la tête de leur État pendant deux mandats. Je pense qu'il faudra les convaincre. J'ai dirigé la liste à l'élection législative, la liste de Bernard Bokoyakar, que j'ai gagnée. Je ne pense pas que ça a posé un problème que je sois tête de liste étant femme. Je pense que les Sénégalais sont prêts à élire une femme. Je pense qu'ils pourraient même le vouloir pour avoir des approches différentes dans l'exercice du pouvoir. Ce que les Sénégalais attendent des candidats, c'est de voir les profils déjà, leur éthique, leur expérience et les propositions que les candidats feront.
Retrouvez l'entretien intégral d'Aminata Touré sur voafrique.com dans Le Monde au féminin qui sera diffusé samedi à 19h05, temps universel.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Les experts dans le domaine du numérique et de la communication estiment que les pays africains doivent s'investir davantage pour réduire la fracture numérique qui s'observe sur le continent. Indication faite au cours d'une conférence internationale de 3 jours sur la téléphonie mobile. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Jean Damascène Manishimoui.
La connectivité Internet est devenue comme le moteur de la vie aujourd'hui. Cela pousse les gens à effectuer même de longs déplacements à la recherche d'une connexion. Les experts du numérique déplorent le fait qu'une grande partie de la population reste déconnectée, ce qui interpelle les autorités sur le continent africain.
Il faudrait certainement pouvoir avoir des agréments entre les pays et pourquoi pas créer une plateforme, peut-être une application qui permettra de pouvoir faciliter les échanges. Par exemple, je suis au Rwanda, j'aimerais envoyer de l'argent au Congo, envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire, si on peut avoir une certaine plateforme avec des coûts assez raisonnables pour pouvoir faciliter ça.
Il faut peut-être faut travailler sur le contenu de l'offre des services. Voilà, proposer des services plus attrayants et à des coûts aussi accessibles pour les populations. Parce qu'il faut tenir compte du niveau, économique de nos populations pour faire des offres de services.
Le rapport sur l'économie numérique montre qu'en Afrique subsaharienne, l'écart dans l'usage de l'Internet mobile est de 59%, car plus de 285 millions, soit 25% de la population de cette partie de l'Afrique, est le seul connecté à l'Internet mobile. Pour le président rwandais Paul Kagame, cela interpelle le continent.
We have to address the gaps in the access and connectivity with a sense of urgency.
Nous devons éliminer en urgence les écarts qu'on trouve dans l'accès à la technologie et à la connectivité pour beaucoup d'Africains qui restent hors connexion. Aujourd'hui, l'Afrique a le taux le plus rapide de pénétration mobile au niveau mondial, mais le chemin reste encore long. Nous pouvons avoir plus de résultats rapidement si nous travaillons ensemble.
We can get more results faster. By working together.
Les jeunes représentent une grande partie de la population africaine. Pour l'Union africaine, il faut travailler davantage à l'autonomisation des jeunes, car ils doivent contribuer au développement de l'Afrique.
Tu peux avoir des connaissances, mais il faut savoir les appliquer pour la création de l'emploi. Et le message que nous donnons aux jeunes d'aujourd'hui est d'être créateurs d'emploi au lieu d'être demandeurs d'emploi.
Les experts estiment que les Africains doivent embrasser la transformation numérique, alors que beaucoup sur le continent restent déconnectés. Jean-Thomas Seniman Chimwe pour VOA Afrique, Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Au Cameroun, le gouvernement veut investir près de 1800 milliards de francs CFA pour la reconstruction de la région de l'extrême nord. Cette partie du pays frontalier au Nigeria a subi d'importants dégâts suite aux incursions des combattants de Boko Haram, des conflits intercommunautaires, des inondations et des conséquences du changement climatique. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jules Ntap.
Le programme spécial de reconstruction et de développement de la région de l'extrême nord a été présenté aux populations et autorités administratives. Les membres de la société civile ont été également conviés à l'occasion.
Boko Haram nous a fait rentrer en arrière. Donc si le chef de l'État a décidé de reconstruire l'extrême nord, ça c'est une très bonne chose. Ce qu'il faut faire, c'est que ceux-là qu'on a confiés, ces tâches-là, le fassent d'une bonne manière.
C'est une satisfaction aujourd'hui de savoir que non seulement le projet va être mis en œuvre dans la région, mais que la L'approche sera une approche basée sur les besoins effectifs des populations.
Nous, de la société civile, nous accueillons avec satisfaction ce programme, sachant que nous avons notre rôle à jouer.
Tous les 6 départements de la région sont concernés par les projets de reconstruction. Chetima Amidou, maire de la commune de Moura.
Il s'agit globalement, n'est-ce pas, de la reconstruction des infrastructures sociales de base. Il s'agit de reconstruire, n'est-ce pas, le tissu économique à travers la réhabilitation des routes économiques et des routes agricoles. Il s'agit de reconstruire les écoles. Il s'agit de reconstruire, n'est-ce pas, les réseaux électriques. Il s'agit également de reconstruire toutes les infrastructures hydrauliques.
Le démarrage des travaux est imminent. Aladi Magra Massoua, coordonnateur national du programme spécial de reconstruction et de développement de la région de l'extrême nord.
Certains travaux relatifs aux infrastructures sanitaires, aux infrastructures d'adduction d'eau, ainsi que des infrastructures scolaires, ainsi que leur équipement, vont connaître leur démarrage puisque les contrats sont en cours d'être signés.
Des mesures sécuritaires ont été prises pour faire face à l'éventuelle menace de Boko Haram, d'après le coordinateur du programme spécial, Aladi Magra Massoua.
Nous allons signer une convention avec le ministère de la Défense pour accompagner tous les prestataires et même les responsables du programme qui vont se déployer sur le terrain. Et ce qui veut dire que dans même le programme, l'équipe du programme, il y aura des responsables chargés de la sécurité. C'est le lieu aussi de rappeler que l'ombre existe, mais depuis un certain temps, il n'y a pas d'attaque particulière de Boko Haram. Donc, la sérénité est là. Et des localités plus proches de la frontière avec le Nigeria, dans le Mayo-Chanaga, Mayo-Sava et Logone-Chari, sont en pleine activité. Vous prenez Fotokol, Banki, Kolofata, toutes ces localités-là sont actuellement en pleine activité.
À terme, le programme entend reconstruire toutes les infrastructures détruites par Boko Haram, achever les chantiers abandonnés, développer les infrastructures pour assurer la relance des activités socio-économiques. Ce sera donc le début de longs, difficiles et parfois périlleux travaux d'Hercule. Et pour arriver à bout, il faudra aussi surveiller de près l'utilisation réelle du beau pactole de 1800 milliards de francs CFA Yaoundé. Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.